c'est Ouna qui m'a misère. Voici le coin de boue où dormait mon fanfier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Chers auditeurs et auditrices, bonsoir à vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'Entretel de la semaine de la Radio Raj, Voix du Jeune, où nous avons parmi nous un jeune militant engagé, associatif engagé. C'est Jawad Rostom Touati.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Nous avons à prendre aujourd'hui un sujet très important, un sujet délicat, qui part de la jeunesse algérienne, sa réalité dans ce contexte politique et social et économique du pays, caractérisé par sa crise, par la crise qui est profonde et multidimensionnelle, d'où l'implication de cette jeunesse s'avère de plus en plus nécessaire et urgente. Son implication, donc, dans cette démarche de prise de conscience et dans ce processus que je pense qui est long, donc, a besoin des réflexions de tout bord. Donc, c'est pour cela, nous avons encore donc à trop parler avec notre invité et à trop discuter. Donc, le débat, ça sera donc partagé à deux parties. Mm-hmm. Donc, on va parler sur la jeunesse algérienne, mm-hmm, et aussi son livre qui sera paru dans les prochains jours, intitulé
Un empereur nommé Désir.
Un empereur nommé Désir, pour que je ne me trompe pas. Donc, un empereur nommé Désir. Donc, ma première question, donc, Jawad, c'est il y en a beaucoup de choses qui se disent sur la jeunesse algérienne et son engagement. En tant qu'écrivain, si j'ose dire, donc vous êtes un écrivain, en tant que jeune, que pensez-vous de la jeunesse algérienne et son engagement?
Bah, en fait, la jeunesse algérienne veut s'engager. Elle est, je pense qu'elle commence à prendre conscience des enjeux que tu as évoqués. Alors on peut se tutoyer, hein, parce qu'on se connaît déjà, donc on va pas parler d'inter, on va pas prendre un nom formel. Donc oui, la jeunesse est très, je pense qu'elle est consciente des enjeux que tu as évoqués. Après, je pense que le premier souci de la jeunesse, c'est le manque de cohésion. Mais ça, à la rigueur, c'est à l'image de tout le pays. C'est-à-dire que il y a eu une recrudescence des clivages, des faux clivages culturels et sociétaux. Alors, et qui servent en fait à masquer les clivages réels qui sont les intérêts antagonistes de différentes puissances de l'argent et au milieu desquels le peuple se trouve pris. Voilà. Et donc la jeunesse cherche à remédier à cela, mais elle ne trouve pas les moyens parce qu'elle est désabusée un peu par la politique politicienne. Or, elle a tendance à confondre la politique au sens des affaires de la cité avec la politique politicienne au sens de cette représentation spectaculaire et complètement stérile que sont les partis politiques que nous connaissons, que sont les syndicats fantoches et complètement inféodés aux intérêts du capital, etc. Et donc, en fait, je pense que ce que la jeunesse doit faire dans un premier temps, c'est prendre conscience que ces organisations-là sont avant tout tributaires de rapports sociaux et qu'ils seront ce que eux décideront d'en faire dans la mesure où ils vont réussir à investir ces sphères-là et ces institutions.
Effectivement, Jawad, donc, le désengagement de la jeunesse algérienne est caractérisé par une absence d'alternative concrète, claire et crédible aux yeux de cette masse juvénile, et d'où un éloignement de sphères associatives et syndicales et politiques. Les causes, on peut dire qu'elles sont multiples, et les raisons aussi. Je cite la non-prise en charge de l'État, de l'alliance de cette frange, et aussi des institutions censées de le faire, la crise de confiance et de transmission qui secoue le pays actuellement, donc c'est historiquement parlant, c'est je pense quelque chose qui se répète à chaque fois. Il y a une crise de confiance générationnelle, si j'ose dire, et qui secoue la société algérienne. Donc ma question aussi, est-ce que les organisations de la société civile et de la jeunesse répondent aux attentes aujourd'hui, aux attentes et aux aspirations de la jeunesse algérienne? Quelque part, est-ce qu'elles reflètent le besoin réel de la jeunesse algérienne?
Non, parce qu'elles ont été d'abord vidées de leur contenu social. Elles ont été vidées de leur contenu, on ne va pas dire révolutionnaire, ça serait un bien grand mot, mais au moins militant.
De lutte.
Elles ont été vidées de toute lutte réelle. Et donc, automatiquement, cette crise de confiance-là est justifiée. Toutefois, lorsqu'on parle de conflit générationnel, je pense que ça fait aussi partie des faux clivages. Et le problème n'est pas un conflit générationnel, hein, parce que dans les vieilles générations, enfin, dans les générations précédentes, il y a de tout. C'est-à-dire, il y a des militants sincères qui ont été complètement écartés des sphères de décision, tout comme il y a de vieux grabataires qui s'accrochent à leurs privilèges. Donc le problème n'est pas un conflit générationnel, c'est l'un des faux clivages qu'on cherche à nous faire gober, et c'est une des stratégies en fait spectaculaires où on fait un peu du jeunisme, c'est-à-dire on va promouvoir la jeunesse, mais une jeunesse vide de tout contenu. Et en fait, il faut comprendre que le conflit n'est pas entre jeunes et vieux, il n'est pas entre hommes et femmes, encore un faux antagonisme.
Entre classes, je
il
pense.
N'est pas, voilà, exactement. Tout à fait, ouais. Il n'est pas entre islamistes, entre guillemets, et laïcs, etc., ou soi-disant modernes, etc. Donc je pense que tout cela sert à masquer ce que tu as parfaitement pointé du doigt, c'est-à-dire la lutte entre classes. Donc, pour prendre un exemple complètement extérieur à l'Algérie, un jeune grutier de 25 ans de New York n'a aucun intérêt commun avec un jeune golden boy de Wall Street. Et pourtant, c'est exactement la même génération. Donc, ces faux conflits générationnels, c'est de la poudre aux yeux. Après, par rapport à ce que tu as mentionné pour la crise de confiance, elle est légitime dans le sens où les différents partis, les différentes institutions qui étaient censées mener ces luttes-là, et incarner ces luttes-là et porter le flambeau et les revendications de la jeunesse et du peuple ont complètement vidé ce combat-là de toute substance. Et comme a dit Guy Debord, c'est-à-dire au contraire, on dirait qu'il cherche à maintenir, à prolonger la plainte du prolétariat d'un millénaire pour à seule fin de lui maintenir un défenseur. C'est-à-dire que si finalement leur militantisme c'est leur poule aux œufs d'or, trouver des solutions ça serait tuer la poule aux œufs d'or. Et donc voilà, ils se maintiennent dans une posture de lutte alors que finalement ce n'est qu'un gagne-pain comme un autre.
Exactement, merci bien. Donc aujourd'hui la littérature dans l'Algérie n'a pas eu sa place souhaitée. Donc j'ai dit littérature society, je dis jeunesse et littérature et livre. Donc le livre en Algérie il est quelque part marginalisé.
Il est marginalisé pas vraiment, mais en fait le grand souci aujourd'hui, c'est que la littérature qui est représentative du peuple, c'est-à-dire la littérature écrite par des Algériens, pour des Algériens, c'est-à-dire une littérature qui s'adresse à des Algériens, manque singulièrement de médiatisation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment creuser, il faut vraiment sortir des sphères médiatiques pour aller découvrir une littérature sérieuse et représentative du peuple algérien, pour découvrir des auteurs comme Youssef Tounsi et beaucoup d'autres. Et c'est-à-dire que lorsque vous voyez les noms aujourd'hui qui sont médiatisés et que vous lisez ensuite leurs écrits, vous vous rendez compte que c'est une vision complètement caricaturale et c'est une vision en fait aliénée du peuple. C'est une vision essentialiste et c'est une vision dans laquelle soit on ne se reconnaît pas et donc forcément on va délaisser cette littérature-là, soit elle va nous permettre dans un complexe de supériorité qui en fait répond à un complexe d'infériorité, elle va nous permettre de tomber dans ce que Frantz Fanon appelle le mécanisme du complexe du colonisé qui cherche à se déprendre de sa race. C'est-à-dire que on va lire cette littérature-là caricaturale, mais juste pour se gargariser du sentiment de supériorité vis-à-vis de cette plèbe qui est décrite de manière comme ça essentialiste, etc.
Merci bien, Jawad. Donc, revenons à votre production littéraire, votre œuvre littéraire. Donc,
œuvre, c'est un bien grand mot.
Contraire, c'est une œuvre qui.
C'est un premier roman.
Je pense qu'il a sa place au sein de la jeunesse algérienne, de la littérature algérienne, je pense. Espérons bien.
On ne peut pas encore le dire, ce sera au lecteur d'en décider.
Tout à fait. Donc, ma question est dans quel contexte votre livre est apparu?
Alors, apparu, dans le. Quel contexte il est apparu ou bien écrit?
Écrit, bien évidemment. Donc, il n'est pas encore apparu cette semaine, mais il est
écrit. Alors, le contexte dans lequel il a été écrit, c'est que, en fait, j'étais employé du tertiaire. Et je suis de formation économique. Et en plus, j'ai travaillé dans la consignation maritime. Donc, je voyais un peu de plus ou moins près un certain aspect de ce qu'on appelle l'import-import. C'est-à-dire d'une économie complètement inféodée.
Rentière.
Même pas. C'est une économie inféodée à une économie étrangère. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre de ce travail aliéné. J'en ai eu marre de passer ma vie, de passer mon temps à enrichir des imbéciles. donc, voilà. J'ai décidé, en fait, d'arrêter de travailler. Mais en parallèle, pour payer les factures, etc., comme je pratique aussi du sport, je suis instructeur et donc ça me permet de payer les factures et de remplir le frigo. Même si c'est un peu frugalement. Mais le grand avantage, c'est que ça m'a laissé beaucoup de temps pour écrire et pour m'adonner à ma passion qui est la littérature. Et en réfléchissant sur les conditions de travail du tertiaire, en réfléchissant sur ce mode de vie aliéné, et en réfléchissant en plus sur la littérature qui est lue par les Algériens, et enfin qui est lue de manière générale et par les Algériens en particulier, c'est-à-dire une littérature
universelle, disons.
Même pas, c'est-à-dire elle est universelle, mais dans sa vacuité. Cette littérature de gare qui va de Coelho à Lévy et Musso, en passant par l'autre, la gourdasse, comment elle s'appelle déjà, celle qui a écrit 50 nuances de bêtises. Enfin, E.L. James, voilà, oui, qui nous a fait une trilogie complètement. Enfin, bref. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi en fait sur les mécanismes qui ont permis le succès de cette littérature-là. Et pourquoi, finalement, comme disait Gramsci, Il disait ça des lecteurs italiens, mais quand j'ai lu ce passage-là, j'ai retrouvé complètement notre réalité. Pourquoi, c'est-à-dire nos compatriotes préfèrent consommer cette littérature-là qui est nauséabonde plutôt que la littérature nationale? C'est peut-être aussi parce que lorsqu'il y a littérature nationale, elle manque de médiatisation. Et celle qui est médiatisée est tout sauf nationale. Et donc j'ai voulu un peu, disons, mettre la main à la pâte et essayer de renverser un peu
les choses,
la vapeur. Voilà. Ouais.
Est-ce que donc les raisons qui vont pousser qui vont pousser à écrire sont les mêmes de contexte ou il y en a d'autres raisons qui sont un peu lointaines ou je veux dire c'est
non c'est-à-dire il y a aussi le fait que ce soit à travers cette littérature aliénée que nous avons évoquée ou lorsqu'on entend le discours de toujours c'est-à-dire que dehors on entend c'est une écolalie tellement redondante que ça en devient pénible c'est-à-dire que il y a une maladie de l'autodénigrement dont nous souffrons aujourd'hui et qui est je pense à mon humble avis la seule réelle maladie dont nous souffrons c'est-à-dire que nous disons de nous-mêmes que nous sommes feignants que nous sommes menteurs que nous sommes misogynes que nous nous attribuons et nous essentialisons toutes les tares qu'on peut observer dans notre société. Comme si elles étaient propres à nous. C'est-à-dire, nous algérianisons le moindre mégot par terre. Tu vois un mégot par terre, c'est parce que nous sommes algériens que nous sommes sales. C'est-à-dire que finalement, nous intériorisons, comme disait Fanon, un complexe d'infériorité qui est dû d'abord à une réalité économique. C'est-à-dire une infériorité économique vis-à-vis de l'Occident que nous allons intérioriser et essentialiser. Et donc, c'est le mécanisme qui m'a donné envie de sortir un peu de cette aliénation et de sortir de cette maladie de l'autodénigrement. Je pense que la seule maladie dont nous souffrons, c'est celle-là. Et que, à partir du moment où nous allons sortir de cet essentialisme, où nous allons cesser d'être dans cette haine de soi, que nous allons commencer à sortir de l'ornière.
Merci bien, Jawad. Donc, ma prochaine question sur donc, est-ce que tu peux me faire un résumé de votre livre?
Bien sûr. En fait, comme je l'ai dit, c'était un peu une tentative d'offrir une alternative à ce que j'appelle les romans de gare. Donc, au départ, je voulais faire une caricature un peu de tous ces romans guimauves et larmoyants, etc. Et donc, j'ai pris un de leurs schéma les plus typiques, à savoir le triangle amoureux, où tu as toujours, presque toujours, un don juan, artiste, écorché vif, tu vois, et qui va tomber amoureux d'une jeune fille rangée, d'une jeune fille pure et gentille et tout ce que tu veux. Tout est bien qui commence bien, et elle va représenter pour lui la transcendance, elle va lui rappeler un peu son âme d'enfant, elle va lui rappeler son innocence perdue, etc. Et ensuite va apparaître la vamp, c'est-à-dire va apparaître la femme fatale, qui va le détourner de son couple idéal, et du coup, la jeune fille rangée, pour reconquérir son artiste écorché vif, va dans le roman, ça c'est dans le roman de gare, hein, c'est-à-dire dans le schéma typique,
je comprends.
Va imiter la vamp, c'est-à-dire qu'elle va tomber dans le désir mimétique, et elle va imiter la vamp pour reconquérir son artiste de pacotille. Et ce faisant, elle va rencontrer des obstacles, car comme dit René Girard, quand il y a désir mimétique, il y a forcément obstacle. Et quels sont ces obstacles-là que va nous peindre la littérature de gare? Ça va être toujours les traditions, la morale et la religion. Et on va nous raconter le parcours initiatique de la jeune fille rangée qui va apprendre à piétiner la morale, qui va apprendre à s'affranchir de la morale bourgeoise alors que c'est un concept complètement périmé. La moralité bourgeoise du temps où la bourgeoisie incarnait l'effort et l'épargne, etc., comparé à l'aristocratie oisive et dilapidatrice. Or, aujourd'hui que la bourgeoisie a remplacé l'aristocratie, c'est elle qui est dans le libertinage et c'est la classe ouvrière qui est dans la morale ou du moins dans ce que Orwell appelait la common decency ou ce que Michel Kluskar appelait l'éthique de la praxis. Donc déjà parler de morale bourgeoise, c'est du périmé. Voilà. Et elle va piétiner les valeurs sociales et donc le roman va servir un peu à trépigner toutes les valeurs sociales et à dire que cette société est toujours arriérée, etc. Et elle va piétiner la religion comme étant archaïque, etc. Et finalement, elle va faire un parcours initiatique qui va lui permettre de devenir la femme telle que conçue par la société du spectacle et qui va être digne finalement de l'artiste je sais pas ce que j'ai, qui lui est déjà le parangon de l'artiste pour la société du spectacle. Donc ça c'est le schéma typique. J'ai déjà beaucoup parlé, mais c'était bien de...
c'était bien
d'expliquer d'abord le schéma typique, qui vraiment est redondant dans cette littérature-là. Et quand j'ai voulu faire la caricature de ce schéma-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que comment faire la caricature de ce qui est déjà caricatural? Donc, du coup, j'ai décidé de faire une caricature à l'envers, c'est-à-dire j'ai décidé de faire dans la sublimation. Donc, j'ai pris le même schéma, mais je l'ai complètement inversé. Donc, l'artiste écorché vif, j'en ai fait un intellectuel un peu sérieux. La jeune fille rangée, qui dans les romans de gare est caractérisée par sa vacuité totale, parce que la première qualité du personnage du roman de gare, c'est que le premier venu, et la première venue, puisse s'identifier à lui. Moi, au contraire, j'ai quand même essayé de créer une jeune fille d'une certaine épaisseur, et en lui donnant une certaine substance, une certaine l'agriculture, etc. Et à côté, la vamp, c'est-à-dire celle qui va venir semer la zizanie, qui dans le roman des gares est toujours une femme fatale, est toujours vrai, le modèle qu'on cherche à imiter. Moi, j'en ai fait au contraire une gourde que l'on méprise tout de suite et que personne ne veut imiter. C'est-à-dire que pour casser complètement cette dynamique du désir mimétique. Et cette trame-là, en fait, me sert de prétexte pour analyser un peu la reproduction des schémas comportementaux de la société de consommation qui nous a envahis de manière spectaculaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une société de consommation structurellement parlant, du point de vue économique. Toutefois, dans nos mœurs et dans la doxa d'une certaine classe, de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle assez inconsidérément l'élite ou l'upper middle class, c'est-à-dire la classe moyenne du tertiaire, nous reprenons les schémas comportementaux de cette société de consommation. Donc j'ai voulu un peu analyser tout ça et montrer que cette société-là est une société de la névrose généralisée, c'est-à-dire de la schizophrénie, de l'histrionisme, c'est-à-dire la constante mise en scène de soi-même, de la paranoïa et du narcissisme, et montrer que finalement, en fait, toutes ces tares que nous essentialisons, que nous algérianisons sans cesse, finalement sont des tares universelles, mais qu'elles ne sont pas universelles au bon sens du terme. Elles ne sont pas universelles, elles sont mondialisées. Et que la première mondialisation, c'est d'abord et avant tout la mondialisation de la névrose et de l'imbécilité. Et que pour que l'Algérien sorte de son aliénation, il faut qu'il cesse de prendre des vessies pour des lanternes, il faut qu'il cesse de croire que la sous-culture occidentale que nous impose la société du spectacle, c'est le seul modèle auquel il doit s'incarner pour devenir respectable et pour devenir un individu accompli. Voilà dans les grandes lignes. Sinon, si je commence, il faut m'arrêter.
C'est bien là. C'est
sinon, j'ai bossé fort.
J'ai bossé, pas aucun problème. Savoir si notre ami à la barre technique va nous accompagner.
Justement, il est en train. Alors, j'apprends aux auditeurs qu'il est en train de faire de grands signes en me disant, allez, commence à abréger un peu parce que c'est normal ça.
Donc c'est ma dernière question. Le livre et la littérature doivent prendre une part et une place assez conséquente dans la société, dans l'école algérienne.
Oui.
Quel est votre commentaire là-dessus, donc?
Oui, il faut d'abord qu'on réintroduise nos classiques dans l'enseignement. Moi, je me souviens, et j'étais un élève, on ne peut pas me dire que j'ai été cancre, j'étais un élève assidu au niveau des langues. Je n'ai eu ni Mamri, ni Yassine, ni Mohamed Dib. Nous n'avons étudié qu'en arabe, et dans un texte très court, c'est-à-dire c'était un extrait de La Grande Maison. Voilà. Donc, et c'était très très court, et ce n'était pas à la mesure de ce que méritait un tel auteur. Donc nos grands auteurs aujourd'hui
sont dans la marginalisation.
Exactement. On ne nous initie pas à l'âge où on devrait nous donner le goût de la lecture et à l'âge où on devrait nous initier à la littérature nationale et à la culture nationale. À cet âge-là, on ne nous initie pas. Et donc forcément, très tôt, très jeune, on va être conditionné à chercher nos modèles ailleurs, et on se pose ensuite la question de savoir pourquoi finalement nous sommes une société aliénée et pourquoi nos références sont constamment des références étrangères. Mais parce que à l'âge où on est le plus ouvert à la culture et à l'apprentissage, l'institution qui est censée assurer cet apprentissage-là est défaillante, raison pour laquelle les jeunes intellectuels, enfin pas forcément les jeunes, mais puisque c'est la thématique de la rencontre, les jeunes intellectuels doivent reprendre ce flambeau-là. Ceux qui ont eu l'expérience de cette vacuité de l'école doivent reprendre ce flambeau pour essayer de transmettre cette culture-là à des plus jeunes qu'eux, finalement. Donc c'est pour ça aussi que je fais partie de la Meute littéraire, qui est un collectif qui organise des événements culturels et artistiques. C'est pour promouvoir la littérature, pour essayer de la démocratiser le plus possible et pour faire redécouvrir finalement aussi nos classiques. Pour faire redécouvrir nos classiques, mais aussi pour sortir de ce cliché-là, de l'Algérien ne lit pas, etc. C'est-à-dire tout ce cliché qui est véhiculé par une certaine intelligentsia qui déplore que l'Algérien ne lit pas, pour dire en filigrane et pour déplorer en filigrane que les Algériens ne les lisent pas, eux, parce que finalement, ils ne s'adressent pas à eux, ils ne sont pas représentatifs de la réalité algérienne. Voilà.
Tout à fait, oui. Je te remercie, Jawed, pour ta présence, pour ta participation à l'entretien de la semaine de la radio.
Merci, Rahim. Merci de m'avoir invité, ce fut un réel plaisir.
Un mot pour la fin.
On vous donne rendez-vous, que ce soit durant ce mois de Ramadan, mais aussi après, c'est-à-dire durant toute la saison, pour beaucoup d'événements culturels. Vous pourrez trouver l'agenda sur la page Facebook Point de Lecture. Voilà, c'est là que nous annoncerons tous nos événements. Et je vous dis à très bientôt. Saha Sholkom. Et puis merci encore. Enfin, Saha Sholkom, parce que c'est l'heure du soir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ça. En tout cas, Saha Ramdankom. Merci beaucoup pour votre invitation. Ce fut un réel plaisir.
Merci
et
bien,
Jawed.
Les portes de l'association sont toujours ouvertes pour pour toi, pour la jeunesse algérienne et pour les exemples pareils.
Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites.
Merci bien, Jawed. Je remercie encore à la fin Mohamed à la barre technique et à bientôt.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.